L'innocente, chapitre 2. Je me rappelle, comme si c'était hier, le jour tragique. Le souvenir si précis que j'en ai demeure lié dans ma mémoire à un autre souvenir, puéril et charmant celui-là. J'avais 7 ans. Peu de jours auparavant, nous avions eu la visite de ma marraine, gaie et gentille comme d'habitude. Après avoir causé un moment avec mon père, elle ne s'était plus occupée que de moi, et nous avions eu notre première querelle. Jusqu'alors, quand elle ne m'appelait pas « filleule », elle m'appelait « bébé ». Or, je devenais un gamin, dans le sens vaniteux et insupportable que ce mot comporte. J'allais à l'école, je jouais aux billes, je faisais le coup de poing avec mes camarades, je déchirais mes culottes, je tachais mes blouses, et de tout cela j'étais très fière. Ce terme de bébé m'offusquait. Il ne pouvait plus convenir à un personnage de mon importance. J'avais pris la résolution de le chasser de notre vocabulaire domestique. Donc, quand ma marraine se tourna vers moi et me dit « Eh bien, bébé, tu ne m'embrasses pas ?» je fis la sourde oreille, bien que je fusse friand de ses chères caresses. Étonnée de mon peu d'empressement, elle répéta « Eh bien, bébé, eh bien !» Je m'approchai d'un air maussade et je déclarai résolument « Je ne suis plus un bébé, ma reine !» Elle éclata de rire, de son joli rire qui sonnait clair, montrait ses belles dents, creusait dans ses joues 2 fossettes gracieuses. « Tu n'es plus un bébé ? » s'écria-t-elle. « Alors, qu'es-tu donc, je t'en prie ?»«
Je suis un garçon. »
Elle rit plus fort. « Un garçon ! Un garçon ! Comment veux-tu donc qu'on t'appelle ? Monsieur bébé ? Monsieur le garçon ?» Son rire, que j'aimais tant à entendre quand il éclatait sans raison pour saluer la gaieté des choses, me blessa davantage, car il me parut qu'elle se moquait de moi. Je me mis en colère, je frappai du pied, je répondis « Je m'appelle Philippe, je veux qu'on m'appelle Philippe !» Ma mère me blâmait des yeux. Mon père me traita de nigaud. Alors ma colère tomba. Je me mis à pleurer tout de bon. Et mes larmes touchèrent ma marraine, dont l'âme compatissante pouvait comprendre toutes les tristesses. En sorte qu'elle capitula. « Viens, Philippe, » me dit-elle, « mon pauvre petit Philippe. Va, va, ce n'est pas moi qui te ferai du chagrin pour si peu de choses. Mais c'est fini, ne pleure plus. » Ses douces mains caressaient mes cheveux, ses douces lèvres se posèrent sur mon front, sa douce voix me répétait « Tu es un bon Philippe, un gentil Philippe. Un cher petit Philippe. » C'était charmant. Bientôt consolée, j'oubliai ma sotte humeur, j'embrassai ma marraine et conservai de cette petite scène l'orgueil de ma victoire et le sentiment de ma dignité de grand garçon, enfin conquise. Or, le jour fatal, à midi, quand je revins de l'école, mon père, qui tenait à l'heure exacte du déjeuner, n'était pas encore rentré. Comme il tardait, ma mère s'inquiéta. « Il devait passer au château pour voir le petit Anthony, » dit-elle. « Qu'est malade ? Serait-ce grave ?» Notre attente se prolongea plus que de raison. Enfin, mon père arriva. Il était pâle, bouleversé. En entrant, il demanda « Tu ne sais donc pas encore l'horrible nouvelle ?»«
Non, » répondit ma mère. « Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Le comte Pierre est mort. » Elle pâlit à son tour.
« Mais il n'était pas malade hier, » dit-elle. « Une mort subite ?»
Mon père jeta un regard de mon côté et répondit en baissant la voix.
« Il s'est tué. »«
Oh, mon Dieu ! Mon Dieu !» s'écria ma mère. « Qu'est-ce que tu me dis là ? Est-ce qu'une pareille chose est possible ?»«
Hélas, oui. » Et ce furent des détails que j'écoutais avidement. La veille, le comte Pierre avait paru tout le jour triste et préoccupé.
Le soir, il s'était enfermé longuement avec sa femme, dont les domestiques remarquèrent, après cet entretien, les yeux rouges, l'air inquiet. Toute la nuit, il y eut de la lumière dans sa chambre, où il écrivait, classait des papiers, et par moments se promenait de long en large. Le matin, de bonne heure, on le vit dans le parc, en compagnie de Monsieur Marian, qu'il quitta avec une poignée de main. Il remonta dans sa chambre, où on l'entendit encore marcher à pas agités. Puis on accourut au bruit d'une détonation. Il fallut forcer la serrure, car il s'était enfermé. Il s'était tué debout devant une glace, d'une seule balle dans la tempe. J'ai rencontré un des domestiques qui venait me chercher, dit mon père en terminant son récit. Ma mère demanda : Et la comtesse ? Il esquissa un geste vague et répondit : Tu peux t'imaginer, désespéré. La nouvelle courait la ville. Quand je sortis pour aller à l'école, il y avait des groupes dans les rues, d'une extraordinaire animation. Les passants s'abordaient pour se communiquer leurs renseignements réciproques avec des airs consternés. La question de ma mère courait dans toutes les bouches. Est-ce qu'une pareille chose est possible? Et les horlogers sortaient tous devant leurs boutiques, en oubliant leurs loupes sur leur établi. À l'école, où les classes ne commencèrent qu'après un long retard, mes camarades commentaient l'événement à leur manière. Et ce devait être quelque chose de singulier que ce drame raconté et expliqué par ces petits innocents, ignorants de toute chose, aux yeux éblouis desquels la lugubre histoire venait de soulever un pan du voile qui leur cache les douleurs de la vie. L'acte en lui-même nous causait à tous une véritable stupéfaction, aucun d'entre nous n'ayant encore soupçonné qu'on pût ainsi mettre fin soi-même à sa propre existence. Des petits demandèrent « Comment fait-on ? » Des grands expliquèrent les moyens. Puis une voix dit « C'est défendu de se tuer. On va en enfer. » Cette phrase entra dans ma tête comme une lance enflammée. En enfer, le comte Pierre, cet homme grave et doux, bienveillant et pacifique, qui m'effrayait un peu, ne me parlait jamais et me semblait pourtant si bon. Non, non, c'était impossible. L'esprit rempli d'angoisse, je m'éloignai du groupe où l'on tenait de tels propos pour réfléchir à loisir. Je pensais, peut-être que le bon Dieu aura miséricorde. Cette question s'agita aussi. Pourquoi s'est-il tué ? Tout à l'heure, à la maison, ma mère déjà la posait à mon père, qui répondait « Est-ce qu'on sait ?» Mes petits camarades, eux, étaient mieux renseignés, bien que leurs renseignements ne concordassent guère. En me rapprochant de leur groupe, j'entendis l'un d'eux affirmer « C'est parce qu'il avait des chagrins. » Un autre, aussi péremptoire, rectifia « Mais non, c'est parce qu'il n'avait plus d'argent. » Frédéric Laurent, un vigoureux gaillard, très méchant, avec qui j'avais souvent maille à partir, m'interpella. « Tu dois savoir, toi qui les connais. » Je fus obligé de répondre « Non, je ne sais pas. » Cela me semblait de peu d'intérêt. La curiosité des motifs ne me tourmentait pas, car la phrase terrible de tout à l'heure continuait à tourner dans ma tête. Mon angoisse, c'était de savoir ce qui l'attendait, là-bas, le pauvre homme que je plaignais. Mais je sentais bien que personne, pas même Frédéric Laurent, n'aurait pu me le dire, et je ne le demandais pas. Dans la soirée, d'autres nouvelles ajoutèrent à mon trouble. Ma mère était allée au château et rapportait, à son tour, quelques détails qu'elle donna pendant le dîner. La comtesse était enfermée dans la chambre du mort, en refusant de voir personne, même son père. Pourtant, elle a consenti à recevoir monsieur le curé, un moment. Il est ressorti tout en larmes. On parlait d'une autopsie probable. « Voilà qui servira à grand-chose, » dit mon père. De nouveau, il posa la question « Et la cause, est-ce qu'on la soupçonne ? » Ma mère répondit « Non, il n'y a que la comtesse et Monsieur Marian qui puissent la connaître. » Et ils se taisent.
Mon père reprit « Tu dis que le curé est allé au château ?»«
Oui. »
« Que va faire le clergé ?»«
J'espère qu'on aura pitié. Songe un peu. Qui pourrait refuser des prières à un des plèges ?»
Mon cœur se serra. Les paroles maternelles venaient appuyer le jugement redoutable qui m'avait glacé d'effroi dans la cour du collège. Cette impression se fortifia d'autant plus en moi que dès le lendemain, la décision fut prise. Les égards humains qu'espérait ma bonne mère, toujours si révérente, ne comptèrent pour rien. Quels que soient ceux qui ont repoussé le don de la vie, ils encourent l'anathème. Aussi, malgré la sympathie et le respect qui entouraient encore la famille du suicidé, le clergé fut-il impitoyable. En vain, le colonel Marian et la comtesse elle-même, arrachés à son deuil par la nécessité d'agir, multiplièrent-ils les démarches et les supplications. Les dépouilles du comte Pierre ne seraient point admises à l'église. Nul prêtre ne consentirait à lui faire l'aumône des suprêmes prières.
« Dieu est peut-être plus clément, » disait timidement ma mère.
Mon père, qui n'était point un fervent catholique, grondait avec une sourde colère. « Pourtant, ils n'ont jamais fait de mal à personne. Ils n'ont fait que du bien. Toute la ville les aime. »
Oui, sans doute, la ville les aimait. Comme je te l'ai déjà dit, nos bons artisans regardaient les petits-fils de leurs anciens seigneurs comme une relique prestigieuse du passé. Ils savaient ou sentaient qu'un fil mystérieux subsistait, dernier reste du lien solide qui jadis unissait leurs humbles ancêtres aux aïeux de la noble famille. La fin tragique du comte Pierre les émouvait comme un malheur commun, et tous en prenaient leur part. Mais le suicide passe pour une honte. Conformément, ils songeaient qu'elle rejaillirait sur eux. Ils se trouvaient dans la situation de collatéraux obscurs, dont le nom serait soudain taché par la faute éclatante d'un parent illustre, et qui, après avoir été fiers de ce parent, sont bien vite prêts à le renier. Le vieux dicton « Noblesse oblige » courut dans les boutiques. Bien des voix prononcèrent cet arrêt. Il a oublié ce qu'on doit à son nom. De tels sentiments expliquent que les témoignages de sympathie furent assez rares. Quelques personnes à peine, de celles qui obéirent à leur premier mouvement, envoyèrent des fleurs. Un petit nombre d'audacieux se hasardèrent à suivre le convoi qui, avant le lever du jour, accompagna le cadavre du comte jusqu'à sa sépulture, réservée dans le parc même du château. Mon père en fut, cela va sans dire. Il revint la mort au cœur. « J'ai cru, » dit-il, et ses paroles me frappèrent si fort que j'en fus longtemps poursuivi. « J'ai cru que nous portions en terre toute une race éteinte. » L'enfant marchait derrière le cercueil, tenant la main du colonel, le pauvre petit. Il est si pâle, si mince, si chétif, qu'il avait l'air d'une petite ombre insignifiante, prête à s'envoler. Sa mère est malade de douleur et ne fait que pleurer. J'ai bien peur qu'elle n'ait pas encore versé toutes ses larmes. En l'écoutant, je songeais au gai sourire de ma marraine, et quelque chose me disait que ce sourire était mort, et que je ne le reverrais plus jamais. Philippe en était là de son récit quand Madeleine entra, nous apportant des limonades. Il l'interpella. « Dis-moi, Madeleine, te souviens-tu du comte Pierre ?» La vieille femme posa son plateau. « Si je m'en souviens, monsieur Philippe, » s'écria-t-elle, « comme si je l'avais vu hier. » Voyant que son maître attendait quelque chose de plus, elle ajouta « Est-ce qu'on peut jamais oublier une pareille histoire ? Aussi longtemps qu'a vécu madame votre mère, monsieur Philippe, elle en parlait sans cesse. Elle disait Je suis sûre que le bon Dieu lui a pardonné, parce que sa femme a expié son crime. Elle a trop souffert par lui et pour lui. Et monsieur le docteur disait, « Il s'est passé dans notre ville des choses qui feraient douter des hommes et de la justice, et de tout, car enfin, pourquoi est-ce que les innocents paieraient pour les coupables ?» Madeleine hésita un instant, puis continua en se signant. Il disait encore, « Après tout, est-ce qu'il a été si coupable, ce malheureux ? N'y a-t-il point d'excuse pour nous, quand nos pauvres forces humaines défaillent ? Il faut le plaindre, non le condamner. Mais s'il avait su ce que sa mort coûterait à sa pauvre femme, il aurait eu le courage de tout supporter. Je sais bien qu'il l'aimait assez pour cela. » Voilà ce qu'il disait, monsieur le docteur. « Et toi, Madeleine, que pensais-tu ? » ?»«
Oh, moi, monsieur Philippe, je ne sais pas. Je suis trop ignorante pour juger. Mais j'ai toujours vu qu'en toute chose, votre bienheureux père avait toujours raison. »
Elle sortit. Philippe vida d'un trait son verre de limonade.
« Tu comprends maintenant, me dit-il, comment les moindres détails de cette aventure sont restés burinés dans ma mémoire. Elle avait frappé les imaginations les plus paresseuses. Pendant des années, j'en ai entendu parler autour de moi, en sorte que j'ai pu tout comprendre. Certains incidents, qui avaient échappé à mon attention d'enfant, m'ont été dans la suite racontés tant de fois qu'ils se sont confondus avec ceux dont j'ai eu la sensation directe. Au point où nous sommes, mon petit cerveau, mis en ébullition, faisait sur le suicide des réflexions très profondes, qui ne sont point sans ressembler à celles que je ferais encore maintenant sur le même sujet. Les événements déposent au fond de nous le levain d'où sortent plus tard nos idées. J'ai aujourd'hui bien des opinions dont l'origine remonte à ce temps-là. Chapitre 3. Comme bien tu penses, la question qui ne tarda pas à passer au premier plan, ce fut celle de la cause de ce mystérieux suicide, du pourquoi. Il en devait être ainsi. La curiosité, qui est à peine un défaut dans les grands centres, prend dans les petits endroits les proportions d'un vice. Elle y devient une passion, aveugle comme toutes les passions, téméraire, déréglée, qui va de l'avant sans plus connaître d'obstacles. Elle ne calcule ni le prix des joies qu'elle veut, ni la valeur des victimes qu'elle fait. Elle peut pousser au crime. J'entends à l'un de ces crimes qui se commettent par des paroles, à l'un de ces meurtres qui tuent le bonheur d'une vie ou la paix d'une âme, et qui s'accomplissent tranquillement, sans offenser aucune loi, sans même laisser de remords dans la conscience de leur auteur. De fait, il n'y a pas de coupable. Ces assassinats sont l'œuvre de tout le monde. Ils rappellent l'antique supplice de la lapidation, un supplice ingénieux entre tous, où chacun faisait l'office de bourreau, sans en avoir le moindre remords. Eh bien, les paisibles habitants de la paisible ville qui sommeille si doucement au bord de son lac, parmi ses sapins, dans sa sécurité montagnarde. Les vieux amis du comte Antony, la noblesse, les bourgeois eux-mêmes, les bons horlogers laborieux qui n'auraient pas interrompu leur travail pour écraser une mouche, tous ces braves gens allaient lapider ma marraine. Chacun lui a jeté sa pierre en passant, sans se déranger, sans seulement se mettre en colère, en sorte qu'à la fin, quand elle est tombée sous ses coups multipliés, chacun a pu dire « Ce n'est pas moi ». Quel fut le misérable qui s'avisa, le premier, de mêler le nom de Madame Desplèges au drame dont elle venait d'être la victime ? Je ne le sais pas, et personne ne le sait. Pas même le coupable, qu'il a probablement oublié, et jamais on ne le saura. Il en est de ces rumeurs-là comme de certains ferments vénéneux. Elles naissent toutes seules, de germes imperceptibles et infinitésimaux. Elles sont des phénomènes qu'on attribue à la génération spontanée, parce qu'on est dans l'impossibilité de les expliquer. Pendant les premiers jours, les détails du suicide, la question des obsèques, des racontars innocents sur la douleur de la comtesse et la surprise des domestiques, bref, tout le pittoresque de l'affaire, si l'on peut dire, avait suffi à défrayer les conversations. Elles ne tardèrent pas, cependant, à devenir plus agressives. Peut-être as-tu remarqué, quand je te l'ai rapporté, l'explication naïve du suicide que donnait un de mes petits camarades. Il avait des chagrins. Après tout, c'était la plus simple, la plus attrayante aussi, justement parce que, très vague, elle ouvrait le champ à toutes les hypothèses. Il fallait préciser. Quel chagrin pouvait avoir le comte Pierre ? Parbleu, des chagrins domestiques, des chagrins de ménage, des chagrins conjugaux. Et l'histoire de mon cousin Jacques revint sur le tapis, mais avec un tout autre caractère, affirmé avec certitude, sans ménagement, menaçante, grosse d'orage. Il n'était plus fier, mon cousin Jacques. On ne le voyait plus au café. Pour aller à son bureau, il glissait le long des murs, avec des airs de vague malfaiteur, écrasé sous la réprobation universelle. Lui qui, jadis, par ses allures de bourreau des cœurs, encourageait les bruits qui le flattaient alors, il aurait bien voulu, maintenant qu'il en était victime, les réduire à néant. Mais le moyen. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a comparé la calomnie à l'hydre aux sans-têtes. Jacques Nattier n'était point de taille à les couper, car il n'avait pas l'étoffe d'un héros, bien qu'il en eût un peu les apparences. L'administration le tira d'embarras. Elle lui offrit une occasion de se déplacer, dont il se hâta de profiter, sans songer que son départ augmenterait la vraisemblance des propos qui circulaient et s'envenimaient de jour en jour. Je sais qu'il eut, à ce sujet, une scène très vive avec mon père, quand il vint brusquement prendre congé de lui. Mon père comprit que cette espèce de fuite ouvrirait toutes les barrières au flanc montant de la calomnie, dont l'assaut porterait désormais contre ma seule marraine. Comme il avait l'âme chevaleresque, il essaya de combattre la résolution de son neveu. Il raisonna, il se fâcha, il le traita de lâche. Mon cousin n'entendait rien à ses discours. « Lâche ? » répondait-il. « Pourquoi, mon cher oncle ? Je ne dois rien à la comtesse Micheline, absolument rien. Elle m'a invité quelquefois chez elle, voilà tout. Faut-il pour cela que je renonce à un bel avancement et me condamne à rester au plège toute ma vie ?» Au fond, c'était raisonné très justement, ne trouves-tu pas ? Mon père se laissait entraîner par la générosité de sa nature, mon cousin par la platitude de la sienne. Il n'y a rien à lui reprocher. S'il est partout vrai que la platitude a toujours raison et que la générosité est une folie, cela est encore plus vrai qu'ailleurs dans ces endroits minuscules où, sous peine d'encourir 1000 maux, il faut rétrécir son âme aux limites de sa bourgade. Le départ de mon cousin Jacques fit grand bruit. Il fut, entre autres, l'occasion d'une scène de collège que je n'ai jamais oubliée. Je me revois très bien dans la cour, pendant une récréation, houspillé par 5 ou 6 de mes camarades qui répétaient à l'envi « Il s'est sauvé, ton cousin ! Il s'est sauvé ! Joli cousin, ma foi, que tu as là !» Ce fut Frédéric Laurent qui ajouta « Et ta marraine ? Elle est jolie aussi, va, ta marraine !» Les autres répétèrent en chœur « Oh, ta marraine !» Alors, pris d'une colère folle, moi qui étais faible et plutôt résigné, je me ruai sur la bande, tapant, griffant, mordant, ce qui me valut un pansum, la justice du collège étant déjà infaillible. Mais mon père, à qui je racontais l'histoire, m'embrassa et me dit « Tu es un brave garçon. » D'ailleurs, je ne comprenais rien à tout cela. La seule chose que je savais de ma marraine, hélas, c'est que je ne la voyais plus. Elle ne sortait pas du château. Par les sentiers qui filent vers les bois, on ne voyait plus glisser ses jolies robes claires, ses gais chapeaux fleuris. Ma marraine n'était plus qu'un fantôme noir, invisible, qui pleurait. Et cette retraite absolue à laquelle elle se condamnait, c'était un argument de plus qui plaidait contre elle, comme le départ de son présumé complice. Son père, dont la prestance aurait pu inspirer quelque respect, fit en ce moment-là une longue maladie, en sorte qu'ils disparurent l'un et l'autre. Le château fut abandonné, isolé comme une léproserie. « Elle veut rester seule, disait-on, qu'elle le soit. » L'on jugeait que son attitude était, non d'une veuve affligée, mais d'une coupable que hantait des remords, qui a honte de soi-même. Peu à peu, la comtesse Pierre perdait le prestige qu'elle devait à son mariage. Elle redevenait Mademoiselle Marian, c'est-à-dire une étrangère, inconnue de la localité méfiante, un papillon égaré dans la fourmilière qu'il serait bon de dévorer. Les dents s'aiguisaient. Il se formait une légende, une vraie légende, mon ami, que je veux te raconter comme telle. Il y avait une fois un jeune gentilhomme, porteur d'un beau nom, titulaire d'une belle fortune, propriétaire d'un beau château. D'âme tendre, de santé chétive, il avait été élevé avec prévoyance par des parents excellents qu'entourait l'estime universelle, en sorte que les augures auraient pu lui prédire une vie heureuse. Mais la mauvaise fée, oubliée le jour de son baptême, se plut à démentir ses probabilités, en plaçant sur son chemin, pour qu'il la rencontrât au moment où le cœur ne demande qu'à se laisser cueillir, une jeune fille admirablement belle. Or, malgré son adorable beauté, cette jeune fille était un démon, capable d'ourdir les complots les plus perfides et de les réaliser. Elle se dit « Voilà un nom, un château, une fortune. Je n'en ai point, je vais les prendre. Ensuite, je souillerai le nom, je vilipenderai la fortune, j'installerai dans le château le complice de mon infamie. » Et parce qu'elle était jolie, elle fit tout ce qu'elle voulut, car le jeune homme l'aima. Cependant, quelque aveuglé qu'il fût, le jour vint où il s'aperçut qu'on trompait sa confiance, qu'on faisait litière de son amour, qu'un misérable lui avait pris son honneur, que la pureté même de son antique race était à jamais compromise. D'autres se seraient vengés. Lui, étant bon, fut seulement pris d'un immense désespoir. Pourtant, il fit un suprême effort pour sauver celle qu'il avait perdue. Il l'adjura de rentrer dans le bon chemin. On racontait la scène en détail, avec preuve à l'appui. Est-ce que les domestiques n'avaient pas vu les deux époux s'enfermer ensemble pour un long entretien? Est-ce qu'ils n'avaient pas entendu les éclats de leur voix qui montaient dans la dispute? D'ailleurs, quelques femmes de chambre devaient bien avoir écouté par le trou de la serrure, et c'était d'elle, sans doute, qu'on tenait le récit. Au lieu d'écraser la misérable, le mari, qui aimait, la supplia. On ne lui répondit que par d'odieux sarcasmes. Il offrit en vain l'oubli et le pardon. Tel était l'endurcissement de la perverse créature, qu'il n'en put pas même obtenir une promesse charitable. Alors le désespoir l'envahit. Il eut la vision de l'existence de douleur et de honte qui l'attendait. La mort l'attira, tentation dernière qui appelle les désespérés et les vaincus. De même qu'il avait perdu son honneur, il perdit encore son âme. L'histoire, tu le vois, était complète. Elle ne manquait ni de pittoresque ni de vraisemblance. Elle se tenait, comme vous dites, vous autres gens de lettres. Un seul point restait obscur. Pourquoi donc l'héroïne, une fois dénoué le lugubre drame qui lui livrait définitivement les objets de ses convoitises en la débarrassant du mari, s'enfermait-elle dans le deuil, au lieu de jouir avec ses complices des biens conquis par sa scélératesse. La question aurait pu donner à réfléchir. Mais il y a réponse à tout. On répondait « Comédie ». Quelques-uns, mieux renseignés, affirmaient soit que mon fâcheux cousin Jacques n'était pas bien loin, soit qu'on ne tarderait pas à le rejoindre. De plus pervers insinuaient « D'ailleurs, qu'importe, s'il n'est plus là, il y en a d'autres ». Bientôt, des variations extraordinaires amplifièrent le thème que je viens de t'indiquer. On y mêla d'autres personnes. Une voix avança qu'il se pouvait très bien que le colonel Marian ne fût pas le père de Madame Desplèges et que le petit Anthony n'était certainement pas le fils du comte Pierre. On nagea dans une mer de mensonges et d'horreurs. Les imaginations malsaines, gâtées par la lecture des romans feuilletons, travaillaient à l'envi. Je n'aurai garde de te raconter toutes les infamies qu'on broda sur ce noir canevas. La comtesse Micheline devint, pour les bonnes gens des plèges, une créature de boue et de vice, une façon de monstre dangereux, un fléau pareil à ces êtres fabuleux des anciens mythes, dragons ou guivres, qui s'installaient dans une contrée pour la punir de ses péchés. Philippe, à ces mots, ne put s'empêcher de jeter un regard sur le portrait, qui semblait flotter dans l'ombre, où il mettait à peine une vague lueur de chair candide. « Oui, me dit-il, voilà ce qu'ils ont fait de cette pauvre et douce créature. Et tu comprends, le crime inventé, il s'agissait d'en trouver le châtiment. Oh, cela ne fut pas difficile. » Chapitre 4. Les mauvais propos qui couraient la ville ne pénétraient point au château, où, pendant un temps, on vécut tout à fait isolé. Quelques personnes avaient fait des visites de condoléances, quelques autres, en moindre nombre, des visites d'amitié. Celles-ci songeaient, comme on dit, à aménager la chèvre et le chou, et voulaient voir où soufflerait le vent, avant de se fâcher tout à fait avec une famille qui, suivant les circonstances, pouvait retrouver toute sa considération. Leur nombre alla décroissant, à mesure que s'étendaient les rumeurs. On ne s'enfroissa pas. On se contenta de conclure « Nos amis se lassent un peu ». Telle est l'humaine indifférence, que cet abandon où tombent vite les malheureux paraît légitime à ceux-là même qui en souffrent. Du reste, les bons observateurs, dont les yeux restaient braqués sur le château, remarquèrent bientôt que, si les amis de la veille le délaissaient, des visages nouveaux, en revanche, s'y multipliaient. Et l'on sut que c'étaient des hommes d'affaires, avocats, avoués, notaires, venus de grandes villes. Ce fut un nouveau sujet de plainte. Est-ce qu'il n'y avait pas, au Plège, un excellent notaire, Maître Ferraidet, qui avait administré jusqu'alors le bien de la famille? Pourquoi lui retirer une confiance dont il restait digne? En fait d'avoué et d'avocat, il y avait aussi sur place ce qu'on pouvait désirer de mieux. Des gens honnêtes, respectables, incapables de pousser à de vaines chicanes par intérêt professionnel. Pour quelles raisons mystérieuses leur préférait-on des inconnus, des étrangers, des oiseaux de proie, qu'il eût mille fois mieux valu ne pas attirer sur la ville, où ils ne manqueraient pas d'exercer leurs ravages habituels? Mais la comtesse et M. Marian ne prenaient conseil de personne, pas même de Mademoiselle Éléonore. Celle-ci, qui brûlait de savoir ce qu'on ne lui apprenait pas, courait de maison en maison en quête de renseignements ou d'hypothèses. Et, pour marquer sans doute qu'il ne fallait point la confondre avec les autres habitants du château, elle répétait à tout venant « Ma nièce n'a point de confiance en moi ». On la plaignait, on la consolait, on insinuait « Probablement qu'ils ont de bonnes raisons pour cacher leurs actes ». Alors elle se mettait à gémir. « Je ne sais pas ce qui se passe, ma chère amie, mais je suis bien inquiète. »
Et c'était des « Si le comte Anthony voyait cela !»
Ou bien « Si la vieille comtesse revenait de l'autre monde !»
Après lesquels on concluait
« Cette pauvre mademoiselle Éléonore est bien à plaindre !»
Presque seule, mon père continuait à fréquenter le château, où d'ailleurs la santé précaire du petit Anthony nécessitait fréquemment ses visites. Il m'emmenait souvent avec lui, malgré ma mère, qui n'aimait point qu'on bravât l'opinion. Elle cherchait parfois à nous retenir sous des prétextes ou demandait « Cette visite est-elle absolument nécessaire aujourd'hui ?» Mon père, qui la devinait, la regardait dans les yeux. « As-tu peur ?» lui disait-il. Alors elle se troublait, se sentant prise en défaut, et balbutiait « Il vaut mieux éviter de froisser les gens. » Ce qui lui valait toujours cette réplique « Il faut être brave avant tout. » J'ai souvent pensé que ces deux êtres, excellents tous les deux, devaient beaucoup s'étonner l'un l'autre. Mon père avait une âme de bataille, toujours prête à partir en avant, comme un cheval de combat à la voix du clairon. Ma bonne mère tremblait sans cesse. « Ce contraste ne t'explique-t-il pas certains traits du caractère de ton vieil ami ?» Le visage de deuil de ma pauvre marraine s'éclairait quand nous arrivions. « Bonjour, docteur. Bonjour, filleule. » Mais comme elle était amaigrie et pâle dans sa robe de crêpe, plus jolie encore dans sa tristesse qu'autrefois dans sa gaieté, si délicieusement jolie que j'éprouvais pour elle une tendresse infinie. Comme je la sentais malheureuse, sans pouvoir connaître l'étendue de son malheur, cette tendresse devenait plus vive, presque passionnée. Quand je voyais qu'elle avait pleuré, des larmes me montaient aux yeux. J'aurais voulu pleurer aussi pour elle. Et puis, je comprenais que de méchantes gens cherchaient à lui nuire ou l'affligeaient. Et j'aurais aussi voulu la défendre, me faire son chevalier, mourir pour elle, comme au bon temps d'autrefois dont je commençais à lire les histoires. Mais j'étais un petit garçon que personne ne prendrait au sérieux. Tout ce que je pus, ce fut de faire encore à l'occasion le coup de poing avec mes camarades, sans pénétrer, n'étant point précoce, le sens de leur sous-entendu. Dans une de ces batailles, j'eus un œil fâcheusement poché, et justement, l'après-midi, nous allions au château. « Qu'est-ce que tu as ?» me demanda ma marraine. « Je me suis battue. »« Pourquoi ?» Je rougis en répondant « Je ne sais pas, comme ça, pour rien. » Alors elle me gronda doucement. « Il ne faut jamais faire de mal à personne. Il faut vivre en paix avec tout le monde. » Je baissai la tête, l'air penaud. Mais, au fond, j'étais fière d'avoir souffert pour elle et de ne pas le lui dire et d'être grondée. Et je pensais « Va, va, ma bonne marraine, vous avez beau dire, je recommencerai demain, après-demain, les autres jours. » Toutes les fois qu'il faudra vous défendre. » Elle, cependant, songeant sans doute qu'il ne fallait rien ajouter au chagrin de ma défaite, me prit sur ses genoux pour embrasser mon œil blessé. Et je ne fus plus seulement fier, je fus heureux. Et ce jour-là, j'osai lui dire « Oh, ma marraine, je vous aime de tout mon cœur !» Ma marraine ne s'occupait pas bien longtemps de moi. Elle appelait son fils et, tout inquiète, le livrait à mon père qui l'interrogeait, l'auscultait, le palpait longuement. Elle demandait, en le rhabillant, « Eh bien, docteur ?» Mon père la rassurait. « Faites-le jouer, disait-il. Je vous laisse Philippe jusqu'à ce soir. Qu'ils courent ensemble, qu'ils s'amusent, c'est le meilleur remède. » Il partait. Ma marraine nous disait « « Allez jouer !» Alors nous jouions, sans entrain, par devoir. Cet enfant frêle, beaucoup plus grand que moi, bien que nous eussions le même âge, me causait toujours une sorte de malaise effrayé.
Il avait une singulière figure, allongée, avec des traits menus, des yeux bleu pâle, inquiets, de longs cheveux plats, très blonds. De plus, grave comme une grande personne, il ne tenait jamais que des propos sages. Le plus souvent, nous marchions à côté l'un de l'autre, dans les longues allées silencieuses du parc, que jonchaient les feuilles de hêtre et les aiguillettes des sapins, en devisant comme des philosophes. C'était toujours moi qui lui disais « Courons !» Alors il prenait ma main et nous nous mettions à courir, mais il était tout de suite essoufflé. Par les jours de pluie, nous restions dans une immense salle qu'on lui avait donnée pour chambre de jeu. Elle était décorée de panoplies et meublée de chaises sculptées et d'une longue table où les armées de nos soldats de plomb pouvaient manœuvrer à l'aise. Anthony se plaisait, non pas à les renverser pêle-mêle en des massacres effroyables, mais à les arranger selon les lois d'une stratégique compliquée qu'il inventait avec application. D'ailleurs, il s'enlaçait assez vite. Il préférait me montrer ses livres et m'en expliquer les images. Ou bien il s'installait dans un fauteuil, oubliait ma présence pour se plonger dans ses réflexions et finissait par m'adresser les questions les plus singulières. « Philippe, est-ce que les bêtes ont une âme comme nous ?» Je ne savais jamais que lui répondre, et il discutait avec lui-même en me demandant de temps en temps « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Sans m'écouter, d'ailleurs, quand je me hasardais à expliquer tant bien que mal mes confuses idées. Aussi n'avais-je guère d'amitié pour lui. En le quittant, je conservais un vague malaise, une espèce de crainte inavouée, comme si j'eusse rencontré un être surnaturel. Sans l'attrait de voir ma marraine, mes visites au château eussent été pour moi de pénibles corvées. Un jour, que mon père me ramenait, nous rencontrâmes le curé et fîmes route ensemble. Notre curé de ce temps-là, M. Verguière, un homme d'une stature exceptionnelle, taillé en Hercule, avec une bonne tête de mouton, était d'âme excellente, mais timoré comme ma mère. On racontait que dans sa jeunesse, il avait eu, avec son évêque, des difficultés sur un point de dogme qui avait failli briser sa carrière. De là peut-être la crainte de déplaire ou d'avoir raison tout seul, qui le poursuivait sans cesse. Il était de ceux qui suivent le vent et cèdent toujours. Mon père se mit à lui parler avec une extrême animation, bien qu'à voix basse à cause de moi. D'abord, je ne saisis que quelques bribes de leur conversation. Méchanceté publique, bruit calomnieux, au-dessus de toute attaque, etc. Puis, comme il arrive volontiers aux grandes personnes qui croient toujours les enfants plus petits qu'ils ne sont, ils oublièrent ma présence ou pensèrent que je ne comprendrais pas. En sorte que, peu à peu, ils élevèrent la voix. J'entendis à peu près ceci. « Je vous le répète, monsieur le curé, de telles calomnies devraient déshonorer aux yeux des honnêtes gens ceux qui les propagent ou les répandent. Sans doute, monsieur le docteur. Pourtant, vous reconnaîtrez que les apparences ne signifient rien, vous le savez bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, ces apparences même n'existent pas. Ce sont des menteurs et des lâches qui les ont créées pour les besoins de leur vilaine cause. » Le curé parut réfléchir. « Oui, » fit-il en remuant la tête. « Tout cela est triste, triste. » Alors mon père, s'arrêtant au milieu du chemin, le prit par un bouton de sa soutane. « Voyons, » lui demanda-t-il, « vous, ne pourriez-vous pas empêcher ces infamies ?» Monsieur Verguère se dégagea, l'air angoissé, en balbutiant « « Mon Dieu, je ne vois pas, non, je ne vois pas ce que je pourrais faire. »« Parlez aux gens !» s'écria mon père avec véhémence. « Leur dire qu'ils se trompent, qu'ils sont injustes, méchants, cruels. » Le curé sourit avec finesse. « Les gens ne croient jamais ces choses-là, De même, monsieur le docteur. On a beau les leur répéter, ils ne les croient pas davantage. Ils sont toujours persuadés qu'ils ont raison. » Tout ce que me révéla cette conversation, c'est qu'il y avait dans la vie de ma marraine un danger, une menace, un mystère. J'ouvris tout grand mes yeux d'enfant sur ce mystère humain. Je tendis mon attention de toutes mes forces pour tâcher de le pénétrer. Une vague idée s'estompait dans mon cerveau, celle que ma marraine pouvait avoir commis une faute, ou qu'au moins on l'en accusait. Mais je la repoussais avec horreur, et j'en étais affreusement tourmentée. Mon père, quand il me trouvait en train de lire un livre de sa bibliothèque, ce qui m'arrivait quelquefois, me le prenait en disant « Cela n'est pas pour toi ». Cela non plus n'était pas pour moi. Pourtant, j'y pensais sans cesse. La réclusion de la comtesse, cependant, ne pouvait durer indéfiniment. Elle sortit au bras de son père. On la vit traverser la ville avec des allures hésitantes de convalescente. Les rues des plèges sont habituellement désertes. Néanmoins, on a peu de chances de les suivre dans toute leur longueur sans rencontrer quelques dames faisant des emplettes de ménage ou quelques notables allant au cercle d'un pas grave. La comtesse Micheline fit donc plusieurs rencontres. Sans doute, elle s'attendait à des saluts respectueux, à de sympathiques questions sur sa santé ou sur celle de son fils. Il ne se passa rien de semblable. Maître Ferredé s'arrêta devant une boutique en tournant le dos pour éviter de saluer. Et monsieur Marian dit à sa fille « Il nous en veut de lui avoir retiré la gestion de nos affaires. S'il savait pourquoi, le brave homme !» Madame d'Ormoise passa sur l'autre trottoir sans regarder, et la comtesse dit à son père « Elle ne nous a pas vus !» J'imagine qu'elle fut un peu peinée de rentrer dans sa solitude sans avoir échangé une parole avec personne. Elle devait s'apercevoir bientôt que ce n'était là qu'un commencement. La première visite qu'elle rendit fut celle d'une jeune femme à qui elle avait toujours marqué une vive sympathie, qui se nommait Madame Aubry, une nature plus ouverte, plus gaie, plus généreuse aussi peut-être que la moyenne de ses combourgeoises, mais esclave de cette frayeur du qu'en dira-t-on, qui, dans les petits milieux, tient lieu d'honneur, de dignité, de vertu, détruit toute velléité d'héroïsme, étouffe tout germe d'indépendance. Madame Aubry n'osa pas se dérober, mais la conversation ne fut qu'un échange de monosyllabes. Telle est la lâcheté humaine que, plus tard, Madame Aubry, bien qu'elle ne fût point méchante, se vanta de sa cruauté, toute fière d'avoir jeté la première pierre. « J'ai été glaciale, disait-elle, à peine polie. Aussi la comtesse a-t-elle compris ce que je pensais. » Peut-être que cette humiliation infligée à une personne dont quelques semaines plus tôt elle recherchait la compagnie avec obséquiosité, qui sait, flattait son petit orgueil de caste. Mais elle se trompait en supposant que son attitude avait révélé quelque chose à Madame Desplèges. Ma pauvre marraine ne se doutait de rien. Pour l'éclairer, il fallut que Madame d'Ormoise lui fît répondre par sa femme de chambre qu'elle ne recevait pas. N'étant point accoutumée à ce qu'on ne se dérangeât pas pour elle, elle dut bien se rendre à l'évidence. Mais quelle pouvait être la cause de ces animosités, maintenant constatées? Voilà ce qu'elle ne parvenait point à deviner. Elle s'inquiéta. Le colonel, pour éclaircir l'affaire, arriva un jour tout fumant chez mon père. Les deux hommes s'enfermèrent longtemps ensemble. De ma chambre de jeu, j'entendais les éclats de voix de M. Marian, et de temps en temps, un juron retentissant. Je pensais, que se passe-t-il donc? Je le sus à dîner, car en ma présence, on partait toujours de l'idée que je ne comprenais rien. Mon père raconta toute leur conversation. Je compris si bien qu'aujourd'hui même je me la rappelle dans ses grandes lignes, et que je ne m'éloignerai certainement pas beaucoup de la vérité en la résumant.
Le colonel. Docteur, c'est à vous que je m'adresse. Vous n'êtes pas seulement un médecin, vous êtes un homme, le seul que je connaisse dans ce misérable trou. Voyons, dites-moi ce qui se passe. »
Mon père, embarrassé, cherchant à esquiver une explication difficile, qui de plus lui semblait inutile.
« Ce qui se passe, monsieur, que voulez-vous dire par là? Que je sache, il ne se passe rien. »
Le colonel, impatient. « Ne faites pas semblant de ne pas comprendre, je vous en prie. Vous voyez bien que les choses ne sont pas dans leur ordre habituel. Comment ? Ma fille va sonner chez Madame Dormoise et cette pécore refuse de la recevoir. Moi-même, j'avais des doutes depuis plusieurs jours. Oui, oui, la mine des gens ne me revenait pas. Et hier soir, je suis allée au cercle, pour la première fois depuis la catastrophe. Eh bien, docteur, ils sont tous partis les uns après les autres. Personne pour ma partie d'écarter. Je suis restée maître du terrain. Et le tenancier me faisait des yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas la peste, que diable! »
Mon père, en hésitant.
« On a beaucoup parlé de la mort du comte Pierre. »
Le colonel.
« Et après? Est-ce parce que mon gendre s'est suicidé qu'on évite ma fille et que je ne trouve personne pour faire une partie? Vos plaisants sont bien bêtes, mais pas à ce point-là. Il y a autre chose. Dites-moi ce qu'il y a. »
Mon père.
« Mon Dieu, je viens de vous le dire. On a entouré la mort du comte de toutes sortes de commentaires. »
Le colonel.
« Mais enfin, quels commentaires ? »
Mon père.
« Eh, que sais-je, des commérages, de sottes inventions dont il ne vaut pas la peine de parler. »
Le colonel.
« Si fait, il vaut la peine. Je veux tout savoir et je compte sur vous. »
Mon père, interrompant.
« Ah, monsieur, permettez, vous m'avez fait l'honneur de me dire que je suis un homme. Eh bien, je vous le demande. Est-il de la dignité d'un homme de rapporter des propos désobligeants et stupides? Pour ma part, je ne sais pas de rôle plus odieux. Ne me demandez pas de le jouer. »
Le colonel, plus doucement.
« Vous avez raison, docteur. Oui, sans doute, vous avez raison. Et pourtant, discutons un peu, voulez-vous ? Nous sommes seuls ici, ma fille et moi. Nous avons des ennemis, à ce qu'il paraît. Du diable, si je m'en serais jamais douté. Nous en sommes entourés, docteur. Ils nous menacent. Il faut bien connaître le danger pour le combattre. »
Mon père, après avoir réfléchi un instant.
« Pour le combattre ? Est-ce qu'on peut le combattre ? Connaissez-vous un moyen de combattre la calomnie ? »
Le colonel.
« Ah, c'est donc de la calomnie. »
Mon père.
« Que voudriez-vous que ce fût d'autre ? Est-ce que la calomnie n'est pas le fléau des petites villes ? Est-ce qu'elle ne surgit et ne se développe pas d'elle-même partout où il y a un mystère ? »
Le colonel, après un silence.
« Ainsi l'on nous calomnie ? »
Mon père.
« Pas vous. »
Le colonel.
« Alors ma fille ? » « Ah, mille tonnerres, qu'est-ce qu'on ose dire d'elle ?»
Mon père.
« Oh, qu'importe, qu'importe le mensonge. Il se transforme, il se multiplie, il change de couleur tous les jours. Ce qu'on peut dire d'une jeune femme, vous pouvez l'imaginer sans qu'il soit besoin de préciser. »
Le colonel.
« Oh, les misérables, les menteurs, les bandits. Elle qui est pure, elle qui est vaillante, elle qui est noble. » Mais elle a son père qui est encore bon pour la défendre. Vous avez raison, docteur. Les infamies qu'ils ont inventées, je ne veux pas les connaître. Mais vous allez me dire...
Mon père.
Quoi donc ?
Le colonel.
Les noms, oui, les noms des lâches qui les inventent et les colportent.
Mon père.
Les noms ?
Le colonel.
Vous ne voulez pas ?
Mon père.
Je ne peux pas. « Ce n'est pas un homme à qui vous pourriez vous en prendre. Ce n'est pas une femme dont vous pourriez attaquer le mari. C'est la ville. Remonter à l'origine? Impossible. Choisir au hasard le premier venu? Vous savez qu'il n'y a pas de héros ici. Chacun vous répondra « Ce n'est pas moi ». On ne désinfecte pas une source empoisonnée. Le poison sort avec l'eau de profondeur où l'on ne peut le poursuivre.
Le colonel.
Ainsi je ne puis rien. Rien, rien, rien. Et vous croyez que nous allons nous incliner comme des coupables? Supporter l'outrage? Ah non, par exemple. J'en trouverai bien un qui payera pour les autres. Je trouverai bien dans le tas une paire d'oreilles à arracher. Et après? Après, ah, mille tonnerres, comme nous filerons vite de ce maudit pays.
En racontant cette douloureuse scène, mon père disait «
Partir, je crois bien que c'est la meilleure résolution qu'il pourrait prendre, et peut-être la seule. »
Ma mère approuva
« Oui, c'est vrai, il faudra qu'il s'en aille. » Et elle les plaignit. « Les pauvres gens. »
Cette expression me serra le cœur.
« Les pauvres gens. Comment pouvait-on parler ainsi de ma marraine, la brillante fée au tout-puissant sourire, si gaie avant sa douleur, si belle, si bonne ? Longtemps je m'attristais en songeant qu'elle était malheureuse, qu'elle partirait, que bientôt je ne la verrais plus. »